Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qui sont les gagnants et les perdants de la pandémie, alors que de Danone à Total, les grandes entreprises commencent à parler de plans sociaux, que la dette française s'alourdit, qu'un plan de relance est en discussion, notamment au niveau européen, que la sortie de crise ne semble pas tout à fait être encore pour demain, envie d'entendre la parole d'un économiste pour comprendre ce qui se joue derrière ou devant la crise sanitaire. Invité, l'économiste Robert Boyer, directeur d'études à l'EHESS, il publie « Les capitalismes face à la pandémie », un pluriel qui surprend, mais dont l'auteur va nous parler. Bonjour Robert Boyer.
Bonjour.
Mais d'abord, vous écrivez que l'année 2020 restera dans les annales économiques. À quel titre, Robert Boyer ?
En révélant un aspect caché de la globalisation, à savoir la circulation des virus. Et deuxième raison, une brutale révélation de la polarisation du monde en des formes économiques très différentes et accélération de tendances antérieures. Donc, je me risquerai à l'hypothèse, dans les livres d'histoire, d'ici une cinquantaine d'années, ce sera une date à peu près sur le même niveau que celle de 1929, ne serait-ce que parce que on aura dépassé une succession de crises nationales pour considérer les tensions entre la communauté de destin au niveau mondial et l'hétérogénéité et les nationalismes de réponse à cette crise. Donc ça restera, en tout état de cause, un moment très décisif.
Voilà, l'histoire fait date, dit l'historien Patrick Boucheron. L'économie aussi fait date. Voilà ce que vous nous dites, Robert Boyer. Parfois, les deux se rencontrent et c'est peut-être ce qui se joue aussi dans cette année 2020. Vous avez cité la crise de 1929, pas celle de 2008. Est-ce qu'on ne court pas tout droit vers une autre crise financière et économique égale en intensité à celle de 2008, même si vous prenez bien soin de souligner que dans le capitalisme, les crises se répètent mais ne se ressemblent pas ?
En un sens, la crise de 2008 était très simple. La libéralisation et l'innovation financière avaient créé une bulle qui s'était diffusée dans le monde entier. Elle éclate et le gouvernement américain et la Banque centrale américaine recapitulent les banques et, bon an, mal an, les économies reprennent leur dynamique. Le coronavirus, c'est autre chose. Effrayé par l'annonce de possibles millions de morts, les gouvernements sont pris de panique et décident le confinement pour essayer d'enrayer cette dynamique. Et ce confinement crée une congélation de l'économie dont il s'avère aujourd'hui très difficile de sortir. Donc, s'il y avait répétition d'une crise financière, elle viendrait de la difficulté de sortie du déconfinement, compte tenu de caractère très massif et un tout petit peu aveugle des mesures économiques qui ont été prises pour compenser les coûts et les dégâts de la pandémie.
Il ne fallait pas, Robert Boyer, confiner quoi qu'il en coûte ?
Ah, si vous regardez le cas de la Chine, un confinement très autoritaire, contrôlé par des moyens de contrôle électronique et numérisation du comportement des individus. Vous avez vu que l'application persistante du confinement jusqu'à ce que le virus soit éradiqué, plus un blocage des frontières, nous livre une sortie beaucoup plus dynamique de l'économie. Alors, cet exemple n'est pas concevable, c'est du côté de Taïwan qu'il faut regarder. Avoir bloqué l'arrivée de touristes taïwanais en provenance de Chine, avoir testé, tracé et isolé grâce à l'économie numérique, a donné une remarquable performance du système taïwanais qui a confié à un institut la coordination des études. Donc, la contradiction de nos sociétés, tant nord-américaines qu'européennes, c'est l'acceptabilité sociale de mesures qui privent de liberté d'entreprendre les entreprises et de liberté de mouvement des citoyens. Donc l'échec est un échec sociopolitique. Mais bien sûr, il serait bien préférable d'avoir des mesures beaucoup plus adaptées à enrayer le virus et non pas stopper la vie sociale et économique.
Alors, Taïwan, c'est pas tout à fait la même échelle et surtout, il y a eu des précédents. On va retourner dans les pas du modèle taïwanais avec la parole d'un chauffeur de taxi, extrait d'un reportage Arte.
Conduire des clients à leur nouvelle vie isolée, Monsieur Wang ne fait plus que ça depuis des semaines. Très tôt, dès le début du mois de janvier, alors même que la Chine n'a encore pris aucune mesure, il a vu son gouvernement se mettre en ordre de bataille.
Sans doute qu'à l'époque de l'épidémie du SRAS, en 2003, notre gouvernement, notre secteur médical, n'était pas prêt, pas aussi performant qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'on a beaucoup progressé depuis cet épisode. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, Taïwan s'en sort de manière exemplaire. Après tout, le nombre de cas recensés à Taïwan est bien plus bas que celui de plein d'autres pays.
À peine plus de 400 cas et moins de 10 morts du coronavirus. Un bilan surprenant pour ce petit pays dont la proximité avec la Chine promettait un tout autre scénario.
Le gouvernement taïwanais gère très bien la situation. C'est ça, Taïwan. Je suis taïwanais et aujourd'hui je suis très fier de mon pays.
Taïwan a été le premier pays à tirer la sonnette d'alarme.
Avec cet exemple de Taïwan que vous venez d'évoquer, Robert Boyer, on voit aussi comment les gouvernants, les pouvoirs publics ont réagi face à l'arrivée de l'épidémie. Mais est-ce que la question des économies peut être posée aussi dans cette comparaison entre Taïwan et la France, l'Europe, enfin d'autres réactions, d'autres pays? Est-ce que nos économies étaient prêtes à une telle épidémie ou pandémie?
Elles étaient très inégalement prêtes. Toutes les sociétés asiatiques qui étaient proches de la Chine avaient été effrayées par le SARS, qui avait été terriblement mortel, même s'il avait été vite contenu. Alors que, dans le cas de l'Europe, par exemple, le fait que le H1N1 n'ait pas eu les effets dévastateurs que l'on sait. Vous vous souvenez le malheureux épisode où on commande
des masques de Roselyne Bachelot
qui, en fait, ne servent à rien. Du coup, nous nous sommes désarmés en disant mais les pandémies, c'est pas grave. On pourra toujours adapter le moment venu. De cette sorte que s'introduit une vision du monde qui est la division du monde qui est la suivante. Soit on a tenu compte des pandémies antérieures et quel que soit le mystère du virus, on a les institutions collectives qui permettent de réduire cette incertitude. Soit on a été confiant dans la puissance de la biologie et l'adaptation et alors, ça j'appellerais ça adaptation dans la panique avec d'énormes coûts socio-économiques. Et alors la chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la sortie de crise est largement conditionné par les leçons qu'on a tirées ou non des crises et des pandémies antérieures. Et donc, c'est à nouveau réinsérer l'économie dans le flot historique, y compris en matière sanitaire.
La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Vous citez Keynes, Robert Boyer, dans votre ouvrage « Les capitalismes face à la pandémie ». Est-ce qu'on a ressorti des vieilles recettes pour essayer de gérer, en Europe notamment, cette crise épidémique ? Ou est-ce qu'on a tenté, expérimenté, outre le confinement, de nouveaux outils ?
Alors, je dirais qu'on a redécouvert l'État. On a redécouvert que, en gros, on peut dire que aucune société d'assurance privée ne couvrait ce risque. Donc, l'État est d'abord apparu comme un assureur systémique face à des risques qui dépassent la responsabilité individuelle. Et donc, il a décidé de soutenir le revenu des ménages, des salariés, de compenser les pertes des entreprises, donc afin de socialiser les pertes dans l'espoir d'une reprise rapide. Et un deuxième rôle qui apparaît aujourd'hui très important, c'est celui de mettre des horloges, mettre de la formation des anticipations. Si le gouvernement ne socialise pas toutes les stratégies individuelles et annonce des plans de sortie progressive du déconfinement, l'investissement s'arrête, les consommateurs ne peuvent pas réaliser leur projet de vie, de telle sorte que l'État a un deuxième rôle, il socialise un projet collectif pour sortir de la crise. Et donc, on retrouve la planification à la française, mais la grande différence, c'est que nous n'étions pas prêts. Nous devons planifier alors qu'on s'était privé des institutions correspondantes. Et donc, du coup, on renoue avec des traditions très différentes. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, la confiance un peu naïve dans le marché a conduit à des résultats assez catastrophiques, puisque l'État fédéral n'a pas voulu faire jouer son pouvoir pour essayer d'enrayer la pandémie. Le marché y pourvoira. Et vous voyez, on redécouvre que non, le marché se portera d'autant mieux qu'on aura vécu la pandémie.
C'est pas la fin du capitalisme pour vous, là, aujourd'hui. Hein. Il n'est pas en train de trépasser, vous n'y croyez pas.
Alors, vous savez, j'étudie en longue période les crises du capitalisme et ce régime est tellement contradictoire, tellement conflictuel, que pour moi, il est presque miraculeux qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir l'extraordinaire renforcement du capitalisme de plateforme centré sur les biens informationnels, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, sont complètement renforcés puisqu'on a distanciation physique. Tous ces GAFA ont de longue date organisé la médiation à travers le numérique. Donc, non seulement ils prenaient la place que vous avez vue dans les cours boursiers, l'emballement boursier, c'est l'emballement sur les GAFA, mais ils ont conquis des marchés et on a découvert qu'on pouvait faire de la télémédecine, du téléenseignement, du commerce, du e-commerce. Brutalement, on s'est aperçu que on pouvait accélérer la vie économique grâce à la mobilisation des GAFA. Donc, paradoxalement, et dernier épisode, ces GAFA s'allient aujourd'hui avec la recherche biologique pour essayer de trouver un nouveau secteur qui serait celui de la médecine moderne, des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins. Donc, à ma grande surprise, pour l'instant, le capitalisme transnational s'en trouve renforcé. Et symétriquement, le capitalisme à très forte impulsion étatique chinois sort de fait consolidé par le fait qu'il a surmonté une grande partie des problèmes que nous sommes encore en train d'affronter. Donc, vous voyez à nouveau l'extrême surprise de cette crise, pour les avoir étudiés depuis 2 ou 3 siècles, celle-ci inaugure une nouvelle forme de crise.
Voilà, 2 pôles extrêmement bien campés aujourd'hui. Vous dites ce capitalisme hyper-étatique et ce capitalisme des plateformes transnationales hégémoniques aujourd'hui presque. Hein. Cette puissance nouvelle, renouvelée, voire révélée par cette crise, elle vous inquiète ?
Alors, elle m'inquiète parce que on oublie que d'où vient les difficultés actuelles, c'est, je dirais, l'affaiblissement des États dans la fourniture des biens collectifs. Imaginez qu'on ait pris au sérieux les épidémies. Je crois que nous avions un système qui s'appelait Sentinelle, dans lequel on surveillait les grippes saisonnières. Pour avoir complexifié notre système de santé, l'avoir décentralisé, avoir multiplié les instituts, les comités scientifiques, etc., l'État s'est trouvé désarmé pour les masques, pour les ventilateurs, pour organiser le traçage et l'isolement des malades, de telle sorte que ma grande surprise, c'est que c'est une crise de l'État qui était affaiblie par la croyance en le fait que le marché pourvoira à tout ce qui est nécessaire au capitalisme, alors que non, l'État doit anticiper sur ce que seront les biens communs que ne peuvent pas produire les capitalismes. Et à mon avis, c'est ça la grande découverte, c'est la redécouverte d'une nouvelle complémentarité entre un État moderne et un capitalisme, lui aussi, très innovateur. Donc, vous voyez, on est dans une période de complémentarité, comme le yin et le yang dans les pays asiatiques.
Je vois, et en même temps, je comprends pas très bien. Il y a quelque chose qui me semble paradoxal dans ce que vous dites. C'est d'un côté, vous avez acté le retour de l'État dans cette crise sanitaire, cette crise épidémique, et en même temps, vous semblez acter une crise de l'État. C'est-à-dire peut-être qu'on n'est pas sur la même échelle. Sur le moment, l'État a su réagir, il a été là, on y a eu recours, il a retrouvé une place, mais vous semblez craindre une incapacité des États sur le long terme à restaurer quoi ? Une reprise durable, à retrouver une vraie légitimité politique voilà, face à ces acteurs ?
Exactement, une légitimation des biens publics que sont l'éducation, la santé, la culture. Si vous voulez, le capitalisme est extrêmement efficace dans la production des biens courants, si vous voulez. Il est assez indépassable à ce niveau-là. Par contre, il ne se préoccupe pas de l'égalité de l'accès à l'éducation, de l'égalité en matière de santé ou d'espérance de vie, ou d'accès à la culture, qui est quand même le lien social à partir duquel se nouent les compromis. De telle sorte qu'on réalise qu'il y avait un État qui est pompier, si vous voulez, assureur, mais il n'a pas la partie dynamique qui permettait, en imposant des contraintes à la dynamique de l'accumulation, de rendre cette accumulation viable. Donc, en quelque sorte, la transnationalisation du capital a affaibli les États nationaux qui a compromis la poursuite de cette dynamique de modernisation à travers l'économie digitale et numérique.
Voilà, Robert Boyer, économiste, directeur d'études à l'EHSS, auteur de « Les capitalismes face à la pandémie » et notre invité jusqu'à 13h30. Les capitalismes, on comprend mieux déjà maintenant pourquoi ce pluriel entre le capitalisme des plateformes, le capitalisme étatique que vous avez évoqué. On a parlé un peu et mis la lumière sur les grands gagnants de cette crise et notamment le capitalisme des plateformes, pas encore avec vous, Robert Boyer, sur les perdants. Et du côté des perdants, on voit, comme redouté depuis le début de cette crise sanitaire, les premiers gros licenciements arrivés, les plans sociaux. Ce raz-de-marée de la misère évoqué dans son journal, Antoine Marette, à propos des reprenant les mots d'une association comme les Restos du Cœur qui se prépare en ce moment à cette vague. Exemple, si vous le voulez bien, avec Danone. Danone qui vient d'annoncer la suppression de 2000 postes, dont 400 en France. Son PDG, Emmanuel Faber, s'en expliquait ce matin.
Nos actionnaires sont évidemment dans une situation difficile avec un cours qui a baissé de 30% depuis à peu près un an, c'est évident. Mais la réalité, c'est que la protection de la rentabilité et du bénéfice, elle est fondamentale pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Elle est fondamentale parce que c'est le socle des investissements de demain. C'est-à-dire que à la fin de l'année, quand on vend un produit 3 euros, un pack d'Activia 3 euros, ce qu'on garde à l'échelle mondiale, c'est 25 centimes de bénéfice. Sur ces 25 centimes, il y en a à peu près la moitié qui sert le dividende de nos actionnaires. Mais le reste, c'est ce que nous avons en début d'année pour l'année suivante, pour investir, pour l'innovation, pour la recherche, pour le soutien des marques, etc. Donc, si on est très très durablement décalé en compétitivité par rapport à nos concurrents, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, et c'est ce qui se passe, ils sont capables de faire beaucoup beaucoup mieux que nous.
Voilà, le patron de Danone, patron plutôt social de cette entreprise, qui avoue devoir aujourd'hui procéder à une partie de licenciement pour pouvoir rebondir. C'est que le début, Robert Boyer.
Alors, cette prise de parole est très intéressante parce qu'elle illustre que les boursiers parient sur une accentuation de la numérisation et une nouvelle onde d'innovation en termes de biologie, de médicaments, de vaccins. Et que vous avez que les cours de toute l'économie traditionnelle, c'est-à-dire les biens de l'agriculture, les produits agricoles, etc., sont supposés appartenir au passé. De telle sorte que la bourse est assez injuste, elle pénalise beaucoup l'économie traditionnelle, ce qui précipite ces licenciements et accentue le dépérissement des emplois bien payés de type industriel qui étaient au cœur du modèle antérieur. Donc on voit bien que le fait que la bourse continue à rythmer les décisions de la plupart des firmes a des effets d'accentuation de le passage du travail matériel à un travail plutôt digital, intellectuel, qui introduit une brèche dans la société qui est tout à fait massive. Ceux qui peuvent s'insérer dans le nouveau paradigme productif contemporain et ceux qui, au contraire, vivaient des connaissances qui progressivement sont érodées du fait de la transformation des modes de vie. Et donc, ce sont eux les perdants.
Alors, il disait aussi Emmanuel Faber ce matin sur France Inter qu'ils avaient fait le choix de redonner de l'autonomie au terrain, hein, c'est-à-dire que c'était plutôt dans les sièges mondiaux et nationaux que des postes allaient être supprimés, notamment des postes de cadre.
Oui, alors justement, là on a, je dirais, la crise des classes moyennes. Ce que beaucoup d'études nous montrent, c'est une polarisation des qualifications. Ceux qui sont livreurs de pizza, nettoyeurs de bureaux, factotums de l'organisation des entreprises et un petit nombre d'entreprises qui concentrent le savoir-faire, les réseaux internationaux, l'innovation et le financement et qui appellent des qualifications extrêmement élevées. Et je dirais que le dépérissement au milieu, c'est celui des techniciens, des cadres moyens qui avaient une compétence liée à des processus liés à la production propre à chaque entreprise. On a une sorte d'abstraction du travail intellectuel et, je dirais, banalisation des tâches matérielles. Du coup, vous avez une grande crise, celle des classes moyennes qui se sentent expropriées par ce type de dynamisme.
Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est aussi étonnant dans ce qui est en train de se jouer là, en tout cas probablement inédit et nouveau, c'est que ce ne sont pas simplement les petits, les plus précaires déjà, c'est aussi les petits commerces, un tissu de PME qui essayait tant bien que mal de se reconstituer, et les grands groupes qui sont touchés, des secteurs importants de nos économies, comme comme le tourisme, comme l'aéronautique, ou encore l'alimentaire, hein, on peut dire, Robert Boyer.
Bien sûr. Alors, je voudrais instaurer une continuité avec le Brexit, où les élections américaines, elles nous ont révélé une polarisation tout à fait extrême. Il y a eu de fait des gagnants de l'internationalisation et il y a eu des perdants. Et la libéralisation qui a réduit la progressivité de l'impôt sur le revenu, allégé la taxation du capital, rationalisé la couverture sociale, a jeté dans le désarroi ceux qui ne pouvaient pas avoir des jobs bien payés dans le nouveau modèle. Donc, vous voyez, on a une continuité. Du coup, la difficulté de sortie de l'épidémie, c'est aussi la difficulté de la légitimité de gouvernement qui se sont aliénés la confiance d'une grande partie de la population, tant des indépendants que des professions libérales ou des salariés aux compétences précaires. Et c'est ça aussi qui rend la crise actuelle extrêmement problématique quand elle est sortie. Il est difficile de forger des consensus dans des sociétés qui sont devenus aussi inégalitaires.
Voilà pour les perdants évoqués et les gagnants, vous le disiez juste avant, avec ce capitalisme de plateforme, les industries numériques. On va essayer d'évoquer ensemble et de dessiner les scénarios, les scénarios d'avenir, Robert Boyer. Qu'est-ce qu'il peut se passer après cela? Est-ce que l'après-crise a déjà commencé? Quelles sont les méthodes envisagées et qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Auteur à la découverte de Les capitalismes face à la pandémie, l'économiste Robert Boyer est notre invité pour une dizaine de minutes encore. D'où viennent les milliards, Robert Boyer? C'est ce que se demande à sa une le 1 hebdo en kiosque demain. Et c'est vrai que c'est une assez bonne question. On se demande comment on fait depuis le début de l'année, alors qu'on a appris jusqu'ici à se serrer la ceinture, en tout cas sur les secteurs qui nous paraissaient essentiels, jamais d'argent ou peu pour l'hôpital, peu d'argent pour l'école, dans des secteurs comme ça qui semblaient pourtant, on nécessitait et on a vu l'urgence et l'importance d'investir dans ce que vous appelez ces biens communs aujourd'hui encore. D'où viennent les milliards? C'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron au printemps dernier. D'où viennent les sommes injectées? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler aussi, Robert Boyer, de la fameuse dette qui corsetait l'économie française jusqu'ici?
Écoutez, je suis content de vous répondre parce qu'il y a une révolution silencieuse dont les citoyens ne sont pas conscients. Les banques centrales avaient été rendues indépendantes et il aurait été interdit de refinancer, de monétiser les titres publics parce que c'était supposé porteur d'inflation. Au cours des 15 dernières années, on a vu que avec la crise de 2008, les banques centrales ont été obligées de baisser les taux d'intérêt et de racheter même des produits toxiques sans inflation. Donc premier ébranlement, l'inflation a été vaincue. Deuxième contrainte, lorsqu'arrive la pandémie et que les gouvernements ont à compenser tous les acteurs économiques dont l'activité est bloquée par l'arrêt de l'économie, les déficits, par exemple, dans le premier trimestre en France, étaient de moins 12, moins 15%. Et alors, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, et ça commence en Angleterre, accepte de financer tous les titres publics. En quelque sorte, nous revenons à une sorte d'uchronie où la Banque centrale monétise tant les crédits privés qu'elle monétise aussi les déficits publics. Et voilà pourquoi taux d'intérêt voisin de zéro et refinancement sans limite, quoi qu'il en coûte, de telle sorte que a disparu la contrainte budgétaire, au moins provisoirement. Et c'est ce qui permet d'affronter cette contradiction. Il y a deux ans, le personnel hospitalier protestait et il n'y avait pas d'argent magique. Et brutalement, l'argent magique est apparu. Et ça, c'est le charme d'une contre-révolution en macroéconomie. La Banque centrale, après tout, doit satisfaire les besoins que les gouvernements estiment légitimes. Et ce changement, c'est celui qui explique la nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés, sans que d'ailleurs personne sache bien comment sortir de cette monnaie gratuite.
Oui, c'est ça, cet argent magique. Hein. Le téléphone a sonné pendant ce temps, c'est peut-être quelqu'un qui voulait vous appeler pour vous dire qu'il vous entend actuellement sur France Culture, Robert Boyer. On parle d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros, il est en discussion. Bruxelles qui entend lier le versement de ces fonds au respect des droits par les États membres. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, chantage, trahison. La Hongrie et la Pologne notamment sont mécontentes et elles ont posé leur veto. La France, de son côté, par la voix de son secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, s'est déclaré favorable à cet accord devant nos sénateurs il y a quelques jours. On l'écoute. Clément Beaune.
Je le dis très clairement, la France ne renoncera ni à la relance, ni à ses valeurs, et certainement pas à ce mécanisme sur l'état de droit. Avec la présidence allemande de l'Union européenne qui exerce encore jusqu'à la fin de l'année, nous recherchons des solutions pratiques qui peuvent passer par un certain nombre de clarifications techniques de ce mécanisme, certainement pas en le remettant encore une fois en cause, parce que ce sont nos valeurs et notre projet européen qui est ici en jeu. Nous regarderons, s'il le faut, en dernier ressort, comment avancer sans les pays qui bloquent, car l'Europe ne peut pas être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements qui ne souhaitent pas avancer, qui ne souhaitent pas respecter le socle essentiel de notre projet politique.
Clément Beaune s'exprimant sur l'engagement de la France, en tout cas le soutien de la France à ce plan de relance européen qui est un plan parmi d'autres, mais qui semble aussi réhabiliter d'une certaine manière la place de l'Europe en ce moment. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne vit un moment décisif aussi, Robert Boyer ?
Oui, je dirais qu'elle risque son existence et je vais revenir à l'été dernier où il est arrivé un agionamento intellectuel de l'élite allemande. Le pouvoir politique allemand s'est aperçu que, en soutenant l'orthodoxie maastrichtienne, elle risquait de faire effondrer l'euro et la construction européenne, de telle sorte que les Allemands ont accepté un embryon de solidarité pour maintenir la solidité de la zone euro qui est devenue si essentielle pour les industriels allemands. Et voilà le plan Nouvelle Génération. Laissez-moi vous dire pourquoi je suis quand même inquiet. Donc, c'était une prise de conscience, cette tardive, mais extrêmement bénéfique. Il faut résoudre les déséquilibres internes de l'Europe en remplaçant pour partie le principe de concurrence par un principe de solidarité. Ça, c'était magnifique. Mais laissez-moi vous expliciter que je vois quatre limites à l'implication de ce plan. Le premier, que depuis 2008, les pays du Nord, de l'Europe, dont l'Allemagne, sont très compétitifs, génèrent un excédent commercial et, en gros, l'économie continue comme avant. Alors que l'Europe du Sud a enregistré désindustrialisation, chômage, accentuation des inégalités. Premier élément important qui supposerait bien sûr des transferts à titre définitif. Deuxième difficulté, c'est bien sûr, là, on a oublié la question de l'immigration, mais vous avez vu qu'on a bloqué une mesure européenne de socialisation de l'immigration par le fait que les pays de l'Europe de l'Est ne voulaient pas s'articuler à une règle qui soit générale parce que pour eux, l'autonomie est tout à fait importante. Et vous avez vu que dans le blocage récent du sommet européen il y a deux jours, Hongrie et Pologne ont dit « nous avons une pleine souveraineté, nous n'avons pas à transiger aux réquisits de l'Europe ». Et vous voyez, c'est un élément important, là c'est le conflit juridique. Est-ce que l'Europe a un même ordre constitutionnel? Et quatrième difficulté, alors c'est ça où à nouveau la Covid-19 joue un tout petit peu comme une ruse de l'histoire, c'est que le Sud vivait du tourisme et d'activités de services qui sont bloquées par la distanciation physique. Alors que le Nord, qui est plus spécialisé dans l'industrie, peut, à l'industrie aéronautique près et à l'automobile près, continuer à produire. De telle façon que vous avez une accentuation des déséquilibres, des compétitivités et des niveaux de vie. Et vous voyez très bien que pour régler ces quatre problèmes, il faut quasiment l'émergence d'un leader politique capable de dire « il y va de la survie de l'Europe au-delà de nos nationalismes ». Et la question est beaucoup plus que technique, contrairement à ce que laissait augurer cette déclaration. C'est plus de la technique, nous passons de la technique à l'économie et de l'économie à la politique. C'est pour ça que ma conclusion du livre, c'est attention, l'Europe, l'intégration européenne joue son existence dans les quelques mois à venir. Et croyez bien qu'à titre personnel, pour moi, pour la question de ma génération, l'Europe a été une invention absolument remarquable. Donc la question n'est pas le doute vis-à-vis de l'Europe, mais c'est capacité à engendrer cette solidarité qui fait vraiment cruellement défaut dans la crise actuelle.
Et dont on pourrait avoir besoin dans d'autres secteurs, parce qu'il y a probablement aussi d'autres perdants futurs à venir de cette crise sanitaire et économique, comme la transition écologique. Ça va être la question des arbitrages, de la répartition des moyens par la suite. Qu'est-ce qui va capitaliser l'attention, selon vous, l'attention des pouvoirs publics et des économistes pour la suite?
Écoutez, cette question est très importante parce que la première, vous avez vu que maintenant nous allons voter des plans pour lutter contre la pauvreté en France. Tous ceux qui ne sont pas inclus dans les problèmes de couverture sociale. Donc, ont primauté de lutter contre la paupérisation et tous les problèmes sociaux qui sont correspondants. Vous avez aussi vu qu'on a atténué les contraintes écologiques pour ne pas détruire l'emploi du secteur betteravier. Donc, retrait vis-à-vis de l'écologie. Et deuxième élément, comme l'investissement est attentiste, puisqu'on ne sait pas bien de quoi demain sera fait, ben, le plan d'avenir, par exemple, sur l'hydrogène, est difficile à mettre en œuvre, car ça suppose qu'on soit sorti de la crise. De telle sorte que la grande difficulté actuelle, c'est que la préoccupation écologique risque de passer à la trappe, parce que, dans le double mouvement, un, l'urgence de résoudre les problèmes sociaux, deux, ne pas compromettre la viabilité d'un système industriel qui est déjà en très mauvaise forme. Donc, vous voyez, l'extrême difficulté. Alors, je vais vous développer une idée optimiste. Imaginons que la santé, l'éducation et la culture deviennent des priorités. Ces secteurs ne consomment pas beaucoup de matières premières. Ils relâchent les contraintes sur les matières premières, sur le carbone, sur la mobilité. Et ce pourrait augurer une transition douce vers une économie qui, en cherchant le bien-être des populations, atténuerait la pression sur les biens matériels très consommateurs de ressources naturelles et apprivoiserait le modèle écologique un peu frugal auquel visent les écologistes. Mais pas par la coercition, mais simplement par la conviction que, comme disait Keynes, une fois qu'on est riche, rien n'est plus important que le développement de la culture et l'épanouissement des talents humains. Je dirais que la pandémie nous fait apparaître que la chose la plus importante, c'est d'être en bonne santé dans une société cultivée et relativement apaisée. Et ceci serait un mouvement de conversion vers la prise en compte, mais effective et cette fois-ci intériorisée, des contraintes écologiques, à l'opposé d'une écologie dure et contraignante.
Voilà, pour l'instant, c'est encore le temps du virus qui continue à gouverner celui de l'économie, mais vous venez d'ouvrir une piste plus optimiste pour l'avenir, et on vous en remercie d'avoir terminé avec ces mots. Robert Boyer, vous êtes l'auteur des Capitalismes face à la pandémie, ouvrage très accessible et passionnant sur ce qui se joue actuellement, qui vient de paraître à la Découverte. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfineau. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Baptiste Lénard. Je vous retrouve demain pour une nouvelle Grande Table avec notamment la réalisatrice cinéaste Claire Denis. Et on va remettre la question des migrants, ou plutôt des migrantes, sur le devant de la scène avec Camille Schmoll, géographe, et Cédric Héroux qui seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission.